Alors, nous sommes un jour que la tradition a appelé dimanche de Pâques, mais nous savons en réalité que c'est le jour de la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine, qui est 3 jours après la mort de Jésus à la Pâques. Donc, il est intéressant aujourd'hui pour nous de reparler de cet événement et d'en tirer quelques exhortations. Nous avons 4 évangiles dans la Bible qui retracent la vie de Jésus et parlent notamment de sa passion, de sa mort, de sa résurrection et de son retour dans le ciel, avec parfois des similarités, des petites précisions, des détails et des tournures différemment présentées par l'un ou l'autre des 4 auteurs. Nous n'allons pas relier ces récits-là. Je vous invite à le faire chez vous. On en a lu un ce matin. Je vais vous proposer ce matin qu'on réfléchisse ensemble sur la résurrection et d'en tirer quelque chose pour nous encourager. Nous n'allons bien sûr pas nous lancer dans la recherche des preuves de la mort et de la résurrection de Jésus, même s'il y a un auteur ou un pasteur américain qui était journaliste, il y a un film sur sa vie. Comment il recherchait à prouver le contraire, à prouver que Jésus n'était pas ressuscité à sa femme. Et finalement, il a été convaincu, bon, par des preuves scientifiques, matérielles. Mais moi, je pense que le meilleur moyen de prouver cela, ça reste des vies constamment remplies du Saint-Esprit, des vies transformées, des vies tellement différentes que l'on se dise, ce n'est possible que si on est rempli du Saint-Esprit et de la puissance de la résurrection. Je vais donc développer 3 points ce matin. Le premier, c'est nous encourager à mettre aussi en avant la résurrection que la mort et les souffrances de Christ. On a parfois tendance à oublier cela. Et en préparant le message, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que dans nos églises, on a la croix? Comme celle-ci accrochée au mur. Certaines personnes les portent même sur le bout d'une chaînette, accrochées à leur cou. C'est un symbole très fort du christianisme, on le sait bien. Ça rappelle la croix sur laquelle Jésus est mort. Je ne sais pas si les chrétiens du premier siècle portaient aussi ce genre de symbole sur eux, ou si dans leurs églises, dans leurs maisons, ils avaient une croix comme la nôtre. Ceci étant, dans l'histoire de l'Église, c'est devenu courant, probablement en commençant par l'Église catholique, qui représente même jusqu'à aujourd'hui la statue de Jésus crucifié à la croix. Et je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous voyez ces représentations-là de Jésus sur la croix. Moi, à chaque fois que je vois ça, il y a une petite voix qui me dit à moi, ou qui prie, et qui dit, Jésus, tu n'es plus sur cette croix, tu n'es plus là. Et c'est impressionnant parce qu'il y a même certaines personnes qui ne peuvent pas prier en dehors de cette. Qui peuvent prier que devant cette croix avec Jésus représenté dessus. Mais j'ai bien peur que cette représentation occulte quelque part ce qui s'est passé après la mort de Jésus, c'est-à-dire la résurrection. Parce que les gens, en voyant ça, peuvent s'arrêter au fait historique. Ah oui, ce pauvre homme, il est mort crucifié, et là, point. On s'arrête là. Et pourtant, derrière la résurrection, il y a une espérance immense pour l'humanité. La croix de Jésus est pleine de sens pour nous. Nous l'avons compris. Sur cette croix, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Ô combien précieux ce « Tout est accompli ». L'œuvre de Dieu que le Père, Dieu le Père, lui avait donnée était pleinement remplie. Mais le plan de Dieu n'était pas encore achevé à la croix. Celui de Jésus, oui, mais celui de Dieu, Jésus était jusqu'à remettre son esprit entre les mains de Dieu. Et l'œuvre de Dieu ne s'arrêtait pas là. Ça allait jusqu'à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et Dieu l'a fait. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. 3 jours après sa mort, Jésus est vivant. Le Seigneur est réellement ressuscité, disaient les deux disciples. On l'a lu à qui est apparu Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Nous avons donc une croix accrochée au mur. Elle nous rappelle, je l'ai dit, les souffrances et la mort de notre Seigneur. Mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Le corps de Jésus n'a pas seulement été descendu mort de la croix et mis dans le tombeau, mais il en a été aussi ressorti vivant de ce tombeau. À mon sens, il manque une représentation de la résurrection de Jésus. Un tombeau vide, par exemple. C'est rare de voir ce genre d'image, ce genre de représentation, sauf dans des livres chrétiens pour enfants, où on voit Jésus sortant du tombeau. Et avec et la croix et le tombeau vide, on aura l'œuvre complète que Dieu a accomplie en la personne de Jésus pour nous. Autant nous sommes au bénéfice de l'œuvre de la croix, autant nous sommes au bénéfice du tombeau laissé vide. L'un n'est pas plus important que l'autre, soulignons-le. La mort ou la résurrection de Jésus, les deux sont les deux faces d'une même pièce. Et pris séparément ou individuellement, on est sûr de passer à côté de la vérité. Si on se concentre sur la mort, on va oublier la résurrection et tout ce qui en découle pour nous. Si on se concentre sur la résurrection, bien sûr, il n'y a pas de résurrection sans la mort, mais on risque de se séduire soi-même en oubliant de porter chaque jour sa propre croix et de se laisser mourir dessus. L'apôtre Paul va joindre ces deux aspects que je viens de vous présenter et que nous ne devons pas perdre de vue en Philippiens 3, 7 à 11. Je lis. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Dans le Nouveau Testament, c'est à peine qu'on trouve des passages où un apôtre parle de la mort de Jésus sans évoquer sa résurrection. Je voudrais aborder un autre élément avec vous. Le fait que nous devons, ok, nous sommes des témoins de Christ, mais nous devons être plus spécifiques que ça. Nous devons être des témoins même de sa résurrection, comme les apôtres l'étaient. La mort et la résurrection de Christ sont deux événements indissociables. Ce sont deux faces d'une même vérité, vérité centrale de l'Évangile, vérité comme fondement principal du christianisme. L'homme naturel comprendra assez facilement, acceptera la mort, acceptera que Jésus soit mort, même s'il y en a quelques-uns qui refutent cela. Mais la résurrection, il va buter là-dessus. Et si quelqu'un arrivait à ébranler la résurrection de Christ parmi les croyants, ce serait mettre le christianisme à terre. Tout s'effondrerait comme un château de cartes. Et sans être très étonné, il existe de nombreuses théories et d'arguments contre la résurrection de Jésus, et ce, depuis les premiers jours qui ont suivi sa résurrection. Nous ne devons pas nous laisser ébranler par cela. Les principaux sacrificateurs, les scribes par exemple, avaient compris que la résurrection serait à jamais un fait d'une ampleur terrible en Matthieu 27, verset 67. Ils iront jusqu'à payer les gardes pour qu'ils disent que le corps de Jésus avait été volé. Ils vont aussi battre de verge les apôtres en leur interdisant d'annoncer au peuple la résurrection de Jésus. Mais les apôtres choisiront d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ces mêmes apôtres qui, en Marc 9-10, se demandaient « Mais qu'est-ce que c'est que ressusciter des morts ?» et qui avaient peur d'interroger Jésus dessus quand il leur en parlait. D'autres pensent, je l'ai dit, que le corps a été volé. D'autres disent que Jésus n'était pas mort, il était dans les vapes, il était dans le coma, il était évanoui. Et puis la fraîcheur dans le tombeau l'a ranimé. Et la science, n'en parlons pas aujourd'hui, ne mettrait pas son bras à couper que Jésus est vraiment ressuscité. Ce n'est pas nouveau, cette négation de la résurrection. Même les auditeurs de Paul à Athènes, une fois, se sont moqués de lui en disant « Eh bien écoute, on t'entendra là-dessus une autre fois. » Mais les apôtres avaient compris. Le poids de la résurrection et ses conséquences, si elle était mise en doute parmi les disciples. Dans le livre des Actes, il est fait plusieurs fois mention de la résurrection de Jésus plus que de sa mort. La résurrection implique forcément la mort, mais la mort n'implique pas toujours la résurrection. Les apôtres se présentaient, comme témoins de la résurrection du Seigneur. Lisons Acte 1, les versets 21 et 22. Il faut que, vous savez, comme Judas a trahi Jésus, il est parti, il s'est suicidé. Et ensuite, l'apôtre Pierre ici, il va parler en disant, il faut qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. Quelqu'un qui était avec nous depuis le début. Et il dit, il faut que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Pas de sa mort, de sa résurrection. Et en Actes 17, 1 à 3, Paul aussi, qui avait l'espérance de la résurrection, dit ceci. Paul et Silas passèrent en Amphipolis et à Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. La résurrection était donc soulignée, accentuée dans le témoignage des apôtres. Je pense que si les apôtres devaient choisir aujourd'hui entre une représentation de la croix de Jésus et la représentation d'un tombeau vide, ils auraient choisi la représentation du tombeau vide comme symbole de leur message et de leur foi. On peut laisser notre mur comme il est, je ne suis pas contre, mais n'oublions pas la croix, mais aussi le tombeau vide. Avant de passer au troisième point, qui est le plus important pour le message de ce matin, je voudrais dire juste un mot sur la Bible et nous rappeler les quelques messages qu'on a écoutés par le passé. La Bible, c'est le seul livre au monde qui parle d'un homme qui a prophétisé sa propre mort et sa résurrection. La résurrection est quelque chose d'inédit, inconcevable. Et beaucoup de religions n'oseraient pas y porter le petit doigt, au risque d'être complètement discrédité, réfuté et taxé d'imposture. Mais la Bible en parle clairement, même si elle s'attire les foudres de ses détracteurs. Elle est la parole de Dieu. Elle n'a pas été écrite pour plaire à quelqu'un, mais pour dire les choses telles qu'elles sont. Elle approuve, mais elle condamne aussi. Elle réconforte, mais elle censure aussi. Elle encourage. Elle met aussi en garde. Elle parle de la mort, elle parle de la résurrection de Jésus. Car cette parole vient de Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Où sont les grands prophètes des religions d'aujourd'hui? De l'islam, ils sont où? Du bouddhisme, de l'hindouisme, ils sont tous morts. Jésus aussi, il est mort, Mais bien plus, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le croyons-nous de notre tête, de notre cœur? Nous avons vu dimanche dernier, dans le livre de Ruth, l'image de la rédemption que Jésus a opérée pour nous. Par sa mort, nous avons été rachetés. Son sang versé a été le prix de notre rachat. Et l'histoire de Ruth et de Boaz, que nous avons vue, est une belle image de notre union spirituelle à Christ. Ruth étant le type parfait de ce que nous sommes à notre état de péché. Et Jésus devait se faire notre plus proche parent avant de nous racheter et nous épouser. C'est pour ça qu'il a dû prendre une forme humaine, faite de chair et de sang comme nous, et il est devenu le parent ayant droit de rachat sur nous. Nous avons un peu vu plus tôt aussi la justification par la foi. Dans Romains, on continuera plus tard encore. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. La justification par la foi constitue une trame de bout en bout dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Abraham, par exemple, était le parfait exemple, lui qui a été déclaré juste sur la base de sa foi. Et aujourd'hui, on parle de la résurrection pour compléter ce trio. Le rachat, la justification, la résurrection. D'où mon troisième point que je veux développer. Pourquoi est-ce si important la résurrection de Jésus pour nous? Tout d'abord, remarquons que la résurrection de Jésus avait été évoquée par David dans l'Ancien Testament, dans les psaumes. Abraham lui aussi croyait en la résurrection possible des morts. On lit en 1 Roi 17 la résurrection par Élie du fils de la veuve de Sarepta. Et en 2 Roi 4, la résurrection par Élisée du fils de la Sunamite. Dans le Nouveau Testament également, on voit Jésus ressusciter la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn et son ami Lazare. Même ses disciples et les apôtres ont ressuscité des morts parce que Jésus leur avait donné le pouvoir de le faire. Et tout cela n'était qu'un aperçu de la victoire future et totale de Jésus sur la mort. Et notons en passant la différence qu'il y a eu entre toutes ces résurrections que je vous ai citées et celle de Jésus. Et bien, toutes ces personnes qui ont été ressuscitées sont encore mortes après. Mais Jésus, ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains 6, 9. Qu'a-t-elle de spécial la résurrection de Jésus? Pourquoi Dieu l'a-t-il ramené des morts? Vous êtes-vous déjà demandé que serait-il si Jésus n'était pas ressuscité? Je vais maintenant citer quelques éléments de réponse à ces questions. La première, la résurrection de Jésus annonce la résurrection de toute l'humanité. Tous les hommes ressusciteront, car tous meurent en Adam et tous revivront en Jésus. Les uns dans la présence de Dieu et les autres séparés de Dieu dans l'enfer éternel. La Bible nous dit qu'il y aura deux résurrections. Une première pour ceux qui appartiennent à Christ et 1000 ans après pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Deuxième élément de réponse. C'est à partir de la résurrection que Jésus, que nous avons eu le privilège d'être appelés les frères et les sœurs de Jésus. En Jean 15, 15, Jésus disait à ses disciples, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Mais en Jean 20, 17, après la résurrection, il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va retrouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il n'a été possible de rentrer dans la famille de Dieu qu'après la résurrection. Il est notre frère aîné, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts, le premier en tout. Un troisième élément de réponse. La résurrection de Jésus atteste de nouveau que Jésus était le Messie. Romains 1. Parce que sa résurrection ne s'est pas faite en catimini, mais il s'est montré à plus de 500 personnes. C'est bien lui qui a été envoyé par Dieu pour nous sauver. C'est bien lui que nous devons croire et en qui nous devons placer notre confiance. C'est aussi lui par qui Dieu va juger le monde. Acte 17:31. S'il n'était pas ressuscité, on pourrait faire une croix sur tout ce qu'il a enseigné. Puisque lui-même a annoncé qu'il ressusciterait en Jean 11:26. Il a dit ceci: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Un autre élément de réponse. La résurrection de Jésus est la garantie de notre justification. C'est parce qu'il est revenu à la vie, monté au ciel, assis à la droite de Dieu, où il intercède pour nous, d'où il nous envoie le Saint-Esprit comme il a promis, que par la foi nous sommes justifiés. Donc si pas la résurrection, donc si pas de résurrection, pas de justification. L'Épître aux Romains enseigne que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Pour, vous savez, pour nous présenter devant Dieu, il nous faut deux choses. Le pardon de nos fautes, de nos péchés, et être revêtus de la justice de Jésus. Sans cela, nous pouvons être sûrs que nous serons mis à la porte à ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Comme ce fut le cas dans la parabole des noces en Matthieu 22, où un homme s'était présenté avec ses propres vêtements, avec sa propre justice. Il a été jeté dehors. La résurrection de Jésus démontre aussi la victoire qu'il a eue sur la mort. Ce qui nous donne d'être libérés de la peur de la mort. Et il réduit aussi à l'impuissance celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, nous dit Hébreux 2, 14 à 15. Jésus a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Jésus a pris un corps semblable au nôtre. Son corps était soumis aux mêmes lois de la nature que nous. S'il avait vécu 90 ans, nul doute qu'il aurait eu la même décadence physique que nous. Il aurait pris de l'âge, il se serait affaibli comme nos papis, comme nos grands-parents s'affaiblissent. C'est à cause de la chute et de la rentrée du péché dans le monde que nous connaissons des maladies. Et Jésus, sans doute aussi, a dû connaître les mêmes tracasseries de santé que nous connaissons, parce qu'il avait un corps identique au nôtre, soumis aux mêmes lois. Et c'est pour ça qu'il est compatissant envers ceux qui sont malades, parce qu'il a pris part à la souffrance humaine. Et comme Dieu l'a ressuscité, lui qui avait un corps comme le mien, je suis convaincu que moi aussi je ressusciterai. Et comment puis-je encore avoir peur de la mort si je sais que Dieu va me ressusciter? Je n'ai plus peur, car je serai ressuscité, je ne connaîtrai plus la mort, ni la moindre maladie dans mon nouveau corps. Si nous tombons dans le piège de la peur de la mort, nous serons esclaves du diable qui a la puissance de la mort. Mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, l'a rendu impuissant sur nous. Mais le diable reste puissant sur ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Je lis Apocalypse 1, verset 18. « J'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus parle à Jean. Comment il a vaincu la mort? Comment il a vaincu le tombeau? Et comment il possède les clés de la mort et du séjour des morts? Les clés symbolisent le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes. C'est Satan qui les avait, ces clés. Mais par sa mort et sa résurrection, Jésus les a récupérées, ces clés. Et l'encouragement pour nous, que nous pouvons en tirer, c'est que si nous sommes de fervents disciples de Jésus, qui cherchons à faire sa volonté toute notre vie, nous ne mourrons pas avant le moment décidé par Dieu. Ni la maladie, ni l'accident ne pourra nous faire mourir avant que Jésus ait décidé d'ouvrir la porte de la mort pour nous vers sa présence. La résurrection de Jésus nous redonne espoir. 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est dans l'espoir de retrouver un monde perdu, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Pourquoi cela redonne espoir? Parce que en relisant Genèse 3, à partir d'où Adam et Ève ont mangé le fruit qui leur était défendu de manger, on voit une succession de conséquences. Dieu va d'abord commencer par faire la promesse de réparer cette cassure provoquée par le péché, provoquée par la désobéissance d'Adam et Ève. Ensuite, il va punir la femme, il va punir l'homme, il va maudire le sol, et il va dire que l'homme retournera à la poussière. Il chassera l'homme et la femme du jardin, et il mettra des chérubins à l'entrée du jardin, qui font tourner des épées flamboyantes pour empêcher l'accès au jardin, pour que l'homme n'y retourne pas, pour que l'homme ne prenne pas le fruit de l'arbre de la vie, pour que l'homme n'en mange pas de ce fruit et vive éternellement. On comprend donc qu'avant Genèse 3, avant la chute, l'homme n'était pas destiné à mourir. L'homme était destiné à vivre éternellement parce que Adam et Ève avaient le droit d'aller manger le fruit de l'arbre de la vie. Et donc, lorsqu'on lit les chapitres 2 à 3, on voit que tout ce que Dieu a fait est beau. On a la description de ce jardin d'Éden qui est merveilleux. C'est le paradis sur terre, où il fait bon vivre, là où on aimerait passer son confinement. Surtout quand on considère la vie ici-bas avec son lot de sushis. Mais hélas, Adam et Ève ont tout gâché. La résurrection nous donne espoir car Jésus a fait le chemin inverse de ce qu'a fait Adam et Ève. Jésus nous a montré qu'on pouvait retourner auprès de Dieu et cueillir et manger du fruit de l'arbre de la vie. Mais bien sûr, sans avoir préalable avoir laissé notre vie. Parce que Jésus, en traçant ce chemin pour nous, a dû passer au travers des épées tournantes et flamboyantes des chérubins. L'épée de Dieu est passée sur lui. Il est mort, mais il est ressuscité et il vit éternellement. Nous avons quelque part déjà expérimenté une sorte de résurrection spirituelle. lorsque nous nous sommes tournés à Christ et que nous avons crié à lui de venir dans nos vies, il est venu, il nous a ressuscités, il nous a réconciliés avec Dieu en prenant sur lui la colère qui nous était destinée. Nous sommes passés de la mort à la vie spirituelle. Et sans y être encore entrés dans le paradis de Dieu, Jésus nous entraîne d'ores et déjà à renoncer à nos passions, à mourir à nos désirs, à mourir à nous-mêmes. Jour après jour, il nous montre ce dont nous devons nous détourner et ce que nous devons faire à la place. Lorsque l'on grandit spirituellement, je pense qu'on vit comme des micro-résurrections dans nos vies. Un dernier point avant de conclure. La résurrection témoigne aussi de la puissance de Dieu, sur laquelle nous devons aussi faire reposer notre foi. Je lis 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et la parole, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est par cette puissance que Dieu a ramené Jésus d'entre les morts. Nous devons aussi placer notre foi sur cette même puissance. Dit qu'on a simplement la foi en Jésus ou en Dieu, c'est bien. Mais dit qu'on a une foi bien spécifique sur chaque attribut de Dieu, c'est encore mieux. Cela garantit d'être un chrétien équilibré. Parce que, ayant expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie, je peux dire, oui, Dieu est amour, Dieu m'aime. Mais quelque part, je peux aussi douter qu'il est tout puissant pour me sauver de tous mes péchés. Je peux avoir goûté à la bonté de Dieu. Mais quelque part, ne pas croire aussi qu'il est un Dieu de colère, un Dieu jaloux. Ou encore, je peux croire que Dieu est souverain sur toute la terre. Mais quelque part aussi, douter qu'il n'est pas compatissant. La preuve, en image, le mal qui sévit dans le monde. S'il était compatissant, il aurait fait quelque chose. Ou enfin, je peux croire que Dieu est saint. Mais quelque part aussi, je peux douter qu'il est juste. Je peux douter de sa justice. Parce qu'il ne punit pas les hommes méchants. Mais au contraire, on a l'impression que ce sont ceux qui font plus de mal, qui prospèrent. Et si nous ne plaçons pas notre foi dans la puissance de Dieu, dans cette puissance qui a ressuscité Jésus des morts, nous la placerons dans nos propres forces, nous la placerons dans nos propres ressources, dans nos capacités, dans nos positions, dans nos relations, pour chercher quelque part à s'assurer une certaine sécurité. C'est pareil, si nous ne croyons pas que Dieu rendra toute justice, si nous ne croyons pas que Dieu appartient la vengeance et la rétribution, comme il le dit, eh bien, nous chercherons nous-mêmes à nous venger, nous chercherons nous-mêmes à faire justice dans les circonstances que nous traversons. Hébreux 11, 17, 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Voyez dans ce passage ce que peut faire un homme qui croit que Dieu est assez puissant pour ressusciter quelqu'un. Sans hésiter, Abraham était prêt à obéir à Dieu en offrant ce qu'il avait de plus précieux en sacrifice, son fils. Si un homme avait le secret de ressusciter les morts, imaginez-vous la puissance qu'il aurait entre les mains. Tous les plus grands scientifiques de la médecine moderne seraient prêts à tout donner pour avoir ne serait-ce qu'une fraction de ce secret, comme ce fut le cas quand les Américains ont mis au point la bombe atomique, quand les autres pays ont vu la démonstration de ce qu'a fait ces deux bombes-là au Japon. Ils se sont dit, vaudrait mieux que chacun cherche à en fabriquer les siens. Jésus, en annonçant ses souffrances et sa mort, annonçait également sa résurrection, 3 jours après. Parce qu'en réalité, il ne regardait pas à la mort, il regardait au-delà. Il regardait à la résurrection. Comme Abraham, en offrant son fils, il avait l'espérance que Dieu peut le ressusciter. Que serait le christianisme sans la résurrection? L'apôtre Paul l'a répondu en disant, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et oui, pourquoi est-ce que nous nous priverions de tellement de choses? Et il a rajouté, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Jésus est vraiment ressuscité. Et ça, je ne veux pas l'oublier. Je veux le proclamer et laisser Jésus transformer ma vie par la puissance de sa résurrection. Je vais prier pour clôturer. Père, merci pour avoir choisi ces apôtres qui nous ont laissé ces écrits, nous rappelant le message que tu avais pour l'humanité. Comment tu as envoyé ton fils, qui est mort pour nous, mais aussi comment tu l'as ressuscité avec puissance, avec force. Pour nous justifier, pour nous donner de l'espérance, pour nous donner de regarder au-delà des circonstances et même de la mort, pour nous libérer de la peur de la mort. Tu nous as donné, Seigneur, de regarder au dessein que tu avais avant la fondation du monde. Tu nous voulais à tes côtés pour l'éternité. Tu n'as jamais voulu que l'homme que tu as créé souffre. Mais même si le péché est rentré, la souffrance, les problèmes, tu n'as jamais été si loin. Tu as envoyé ton fils qui a pris une forme humaine et qui a vécu les mêmes souffrances que nous. Et parce que il a vaincu le péché, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu Satan, il est un exemple pour nous et nous voulons suivre ses traces, nous voulons suivre ses pas. Ô Seigneur Jésus, le ressuscité, nous tournons nos yeux vers toi, nous tournons nos cœurs vers toi et nous regardons à ton prochain retour. Nous espérons de tout notre cœur, Seigneur, que tu reviendras, que nous soyons morts, que nous soyons vivants. Tu reviendras et tu nous prendras avec toi. Ça en sera fini avec le péché, avec la mort, avec la maladie, avec les souffrances, ça en sera fini. Et tu nous feras goûter au repos éternel. Je te bénis pour cela, Père. Je te bénis pour ce message d'espérance. Ta mort, mais aussi ta résurrection. Et ne pas l'oublier, Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour le don de ta grâce en Jésus-Christ. Amen.